Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité à Bunia, plusieurs véhicules des transports en commun attaqués sous la route nationale numéro 27 par des hommes armés de la milice Codeco, de passagers dépouillés de leurs biens et trois personnes enlevées avant d'être libérées après paiement d'une rançon, vous l'attendrez. À suivre également à Goma, les ONG locales appellent à renforcer l'implication de communautés dans la riposte contre Ebola. Le CONAFOR de RDC alerte notamment sous les rumeurs, les refus de suivi de contacts et les enterrements non sécurisés. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invité Monseigneur Zachary Massimango Katanda, évêque de l'église anglicane diocèse de Kindu. Il revient sur le préparatif de la rentrée scolaire 2026-2027 et les actions engagées pour renforcer les capacités des enseignements. Voilà pour les titres, les détails dans un instant. Christian Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. De nombreux véhicules de transport en commun sont tombés ce week-end dans une embuscade tendue par des hommes armés de la milice Union de Révolutionnaires pour la Défense du Peuple Congolais, URDPC Codeco, au niveau du village de Dera, sur la route nationale numéro 26 dans le territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les assaillants ont dépouillé les passagers de leurs biens et d'importantes sommes d'argent. Trois personnes ont également été prises en otage avant d'être relâché après le paiement d'une rançon. Les acteurs locaux de la société civile redoutent une reprise de violence dans cette partie de la province après plusieurs mois d'accalmie. Martial Kizabiamungu.
Selon des sources sécuritaires et coutumières, un groupe d'hommes armés présumés appartenir à la milice URDPC Barkodeko en provenance du village de Lobou a érigé sans dit une barrière sur la route nationale numéro 27 à hauteur du village de Dera dans les territoires du Djougou. Un camion à provenance de Mahagi est tombé dans cette embuscade. Les assaillants auraient ouvert le feu pour immobiliser le véhicule avant de dépouiller le membre de l'équipage de leur téléphone, leurs effets personnels et d'importantes sommes d'argent. Le lendemain, dimanche, trois autres véhicules de transport en commun assurant la liaison Bunia-Mahagi ont été attaqués au même endroit. Selon les mêmes sources, les passagers ont été dépouillés de leurs biens sous la menace des armes. L'un d'eux a été blessé par balle. Trois autres personnes ont été enlevées et conduites dans la forêt de Lobou. Grâce à une médiation menée par des chefs coutumiers locaux, les otages ont été libérés lundi matin après les paiement d'une ration estimée à $600 américains, selon plusieurs sources locales. Bunia, Martial Kizapiamungu, Radio Okapi.
Après ces attaques dans le territoire de Djougou, direction le Nord Kivu, où les cris des victimes du Congo, CVC, une organisation indépendante de défense des droits humains, exprime sa vive inquiétude face à la recrudescence des attaques armées, des tueries des civils et des incursions attribuées notamment aux ZADF dans la ville de Beni et ses environs au Nord Kivu. Dans un communiqué publié hier dimanche, l'organisation estime que cette situation met gravement en péril la vie, la sécurité et les droits fondamentaux des populations civiles. Son coordonnateur Espoir Sadiki Chemukobia appelle les autorités à renforcer la protection des civils et réclame l'ouverture d'une enquête indépendante sur les récentes violences. Il est au téléphone de Marcel Papi Mukeba.
Plusieurs témoignages recueillis auprès des habitants et d'autres sources font état des préoccupations concernant le fonctionnement du dispositif de sécurité dans la ville. Certaines informations évoquent d'éventuelles défaillances. Ces allégations doivent faire l'objet d'enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes afin d'établir les faits et de déterminer la responsabilité éventuelle. Le cri des victimes demande notamment l'ouverture immédiate des enquêtes indépendantes sur les récentes attaques dans la ville de Beni et ses environs. Cri des victimes appelle également la communauté internationale à accompagner les efforts visant à établir la vérité, garantir la justice et prévenir de nouvelles violations des droits humains. La protection des civils constitue une obligation fondamentale des autorités publiques.
Nous n'avons pas pu obtenir pour l'instant la réaction de responsables des FRDC dans la région de Beni. Pendant ces temps, de la province voisine du Maniema, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires des Kabambaré. Selon les informations en notre possession, le général Otopokame Mayaya, en provenance de Nyunzu, ont effectué une incursion le week-end dernier avec ses troupes dans cette partie de la province. Des affrontements ont causé des victimes, plusieurs blessés, ainsi que de pillages entraînant le déplacement de nombreux habitants vers des zones jugées plus sûres. Face à cette dégradation de la situation, les députés nationaux Emedi Amouri Xavier Todos a saisi l'Assemblée nationale à travers une motion d'information. Il appelle les autorités à une intervention urgente afin de mettre fin aux hostilités et de rétablir la sécurité dans la région. On écoute Emedi Amouri Xavier Todos, joint par Florence Kizalunga.
L'objectif de cette démarche est que la Chambre basse, c'est-à-dire la plénière, en décide, adopte une résolution ou que le bureau en informe certains ministres, c'est-à-dire les ministres ayant les attributions par rapport à cet événement. Je vous cite, entre autres, il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires humanitaires, puissent intervenir pour qu'il y ait cessation d'hostilité. Parce que dès qu'il y a affrontement quelque part, il y a mort d'homme, et surtout que nos Semayaya et ses troupes ont incendié, ils ont détruit, ils ont pillé tous les biens. Et quand il y a crépitement des balles, la population ne pouvait pas rester. Elle s'est enfuie, elle est dans la brousse. Il y en a une partie qui s'est dirigée vers le site Kivu. Une autre partie a fait la route au Kalemi. Et ceux d'autres ont retourné vers Kabambare Centre. Ah, comprenez, nous avons voulu dénoncer cet aspect des choses et nous allons les suivre afin qu'on puisse réellement mettre hors état de nuire la population de Kabambare qui souffre tant. Selon leur objectif, ils veulent annexer certaines terres à d'autres provinces. C'est-à-dire la province de Tanganyika et la province de Sud-Kivu. Or, ces terres-là, ce sont les terres du territoire de Kabambare.
Toujours sur la question de sécurité, la police appelle les sociétés privées de sécurité à travailler dans le strict respect de la loi. Au cours d'une rencontre hier à Lubumbashi avec le responsable des sociétés des gardiennages, le commissaire provincial de la police de Haut-Katanga leur a rappelé le cadre légal régissant les activités des sociétés privées de sécurité en RDC. En outre, le général Blaise Kilimbalimba a souligné que ces sociétés de sécurité sont interdites notamment d'effectuer de patrouilles sur la voie publique ou de détenir ou d'utiliser des armes à feu. D'amples détails avec Paul Mundang.
Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga rappelle en outre que la loi interdit à ces sociétés privées de sécurité d'arborer des tenues ou insignes prêtant à confusion avec celles des FRDC ou de la police, d'utiliser des gyrophares, des sirènes ou tout autre dispositif de signalisation réservé aux services de défense et de sécurité. Il est aussi interdit à ces sociétés de participer aux opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre public, de se mixer dans les conflits politiques ou sociaux. Cependant, le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, reconnaît que les méthodes de travail de ces sociétés privées de sécurité s'apparentent à celles de la police.
C'est presque ce que fait la police, ce que vous faites aussi. Mais l'usage des détecteurs de métaux et tout ce qu'on a, les caméras de surveillance, les C6 là, tout, c'est aussi nos méthodes de travail. Donc nous sommes presque intimement, c'est un travail de responsabilité. C'est une charge, ça demande une étude d'évaluation au quotidien.
Le commissaire provincial de la police a mentionné aussi que la sécurité des maires est une mission régalienne de l'État et que les sociétés privées de gardiennage ne peuvent agir que dans les limites fixées par la loi. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Quittons à présent le Haut-Katanga pour parler de la riposte contre la maladie à virus Ebola. En RDC, malgré des avancées significatives dans la lutte contre ces virus, la riposte continue de se heurter à plusieurs obstacles sur le terrain. Parmi eux, la propagation de fausses rumeurs, les refus de suivi de contact et la persistance d'enterrements non sécurisés au sein de communautés. Dans un rapport récemment publié, le Conseil national de forum des ONG humanitaires de la RDC, les CONAFOD RDC, estime que la réponse doit davantage s'appuyer sur les acteurs locaux. L'organisation propose la création d'une action locale de lutte contre Ebola et un mécanisme destiné à financer directement les structures communautaires. Les détails avec Rosalie Zawadi.
Pour les acteurs humanitaires locaux, les progrès médicaux réalisés dans la lutte contre Ebola ne suffisent pas à eux seuls à éliminer la maladie. Sur le terrain, les communautés restent parfois méfiantes face aux mesures sanitaires, ce qui complique les efforts des ripostes. Selon les CONAFOD RDC, les ONG locales, les réseaux des survivants ainsi que les associations des femmes et des jeunes jouent pourtant un rôle essentiel. Souvent présents avant même l'arrivée des grands programmes internationaux, ces acteurs continuent également d'accompagner les populations après les crises. Cependant, leur action est freinée par un manque de moyens financiers. Pour remédier à ces situations, les CONAFOD RDC proposent la mise en place d'une action locale des luttes contre Ebola afin de permettre aux acteurs de proximité d'accéder directement et rapidement au financement. Grâce à leur présence permanente au sein des communautés, elles peuvent détecter plus rapidement les alertes et renforcer la confiance nécessaire à l'adhésion des populations aux mesures de prévention. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ces temps au site Kivu, une autre préoccupation retient l'attention, les incendies à répétition qui ravagent plusieurs quartiers de Bukavu. Ces incendies continuent de faire des victimes, de détruire des habitations et de plonger de nombreuses familles dans la précarité, particulièrement pendant la saison sèche. Face à cette problématique devenue récurrente, l'ONG appuie aux femmes démunies et enfants marginalisés avec l'appui des Start Network a organisé une formation de 2 jours au profit des 60 réseaux communautaires de la zone de santé des 10 bandas. Ronny Tibonera pour les détails.
Et cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Réponse Incendie Bukavu, dont la finalité est de renforcer les capacités des acteurs communautaires pour prévenir les incendies et les risques sanitaires qui menacent les populations. Selon Deogracias Pondou Maeche, l'un des facilitateurs, les participants ont été formés sur les mesures de prévention des incendies, la lutte contre les épidémies à potentiel épidémique telles que Ebola, le choléra et la rougeole, ainsi que sur la prévention des violences basées sur le genre, la prévention de l'exploitation et des abus sexuels, le référencement des cas et l'accompagnement psychosocial. Les bénéficiaires ont salué une initiative qu'ils jugent particulièrement adaptée au contexte actuel de Bukavu, où les incendies se multiplient d'année en année. Cette formation nous permettra de sensibiliser efficacement nos communautés afin de prévenir les incendies, protéger les familles et sauver des vies, a déclaré l'un des participants. Cette initiative de l'AFEDEM et des Stat Network intervient alors que lundi dernier, une dizaine de maisons ont pris feu sur l'avenue Albert Kayabou dans la ville de Bukavu. À travers ce projet, les organisateurs estiment que le renforcement des capacités locales pourra réduire l'impact des catastrophes, améliorer la résilience des populations et limiter les conséquences des incendies qui constituent désormais un véritable défi humanitaire pour la ville de Bukavu.
Cap à présent sur le centre du pays, en Mbujimayi, la peur refait surface au quartier Masengo Kaninda dans la commune de Diulu. Après plusieurs mois d'accalmie, le jeune délinquant communément appelé Zabalo ont repris leurs activités. À la tombée de la nuit, ils s'en prennent aux passants, particulièrement aux femmes en revenant du marché, pour leur arracher sacs, téléphones et autres biens. Face à cette recrudescence de l'insécurité, le maire de la ville promet des enquêtes afin d'identifier les auteurs. Les explications d'Esther Ndalafina.
L'inquiétude gagne de nouveau le quartier Masengo Kaninda dans la commune de Diulu en Mbujimayi. Les habitants dénoncent les retours des abalos, ces groupes de jeunes délinquants connus pour leurs actes de vol et d'intimidation. Selon plusieurs témoignages, ces jeunes, souvent sous l'emprise des stupéfiants, occupent certaines rues dès la tombée de la nuit. Ils ciblent principalement les femmes et les jeunes filles revenant du marché, mais aussi les personnes âgées et tout passant porteurs d'objets de valeur. Le week-end dernier, une femme a été dépouillée de son sac alors qu'elle rentrait chez elle. À l'intérieur se trouvaient notamment les clés de sa maison, un incident qui a renforcé le sentiment d'insécurité dans le quartier. Réagissant à cette situation, le maire de Mbujimayi, Jean-Marie Lutumba, invite les victimes à dénoncer systématiquement ces actes auprès des services compétents afin de faciliter les enquêtes. Il assure qu'il va s'impliquer personnellement pour faire toute la lumière sur ces agressions et retrouver les auteurs. Il y a quelques mois, une opération policière avait permis de réduire considérablement ce phénomène grâce à l'arrestation de plusieurs présumés chefs de ces groupes. Aujourd'hui, les habitants craignent toutefois une nouvelle montée de la criminalité si des mesures ne sont pas rapidement prises. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Retournons à l'est au Nord Kivu, cette fois, plus d'une centaine de ménages déplacés et des familles d'accueil reçoivent depuis vendredi des semences agricoles à Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Cette assistance, financée par le Fonds humanitaire de la RDC, vise à soutenir la relance des activités agricoles et à renforcer la sécurité alimentaire de populations affectées par les violences. Le précision avec Martial Papi Mukeba.
Pommes de terre, haricots, maïs, mais aussi aubergines, poireaux ou encore choux. Les semences distribuées ont été sélectionnées à l'issue d'enquêtes menées auprès des communautés locales en fait d'identifier les cultures adaptées à la région et les ménages les plus vulnérables. Pour Thierry Matsindou, chef de programme de l'organisation nationale Soprop, qui assure la mise en œuvre du projet, cette approche permet de répondre aux besoins réels des bénéficiaires.
Ce n'est pas nous qui avons ciblé, il y a des enquêtes qui ont été menés pour se rendre compte de ce qui peut pousser à Lubero. Nous avons réuni les membres des communautés. Il s'agit des bénéficiaires, mais aussi ceux qui les ont accueillis. Nous avons distribué des semences de pommes de terre, des haricots, des maïs pour les vivriers et pour les maraîchers. Nous avons distribué des aubergines, des poireaux, des choux. Nous venons améliorer l'alimentation des personnes déplacées internes et des familles hôtes.
La plupart des bénéficiaires vivent dans des familles d'accueil ou sur des sites de déplacés et restent privés d'accès à leurs champs à cause de l'insécurité. Cette assistance doit leur permettre de relancer progressivement la production agricole et de renforcer leurs moyens de subsistance. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les prix du pétrole repartent fortement à la hausse sur les marchés mondiaux, sur fond de regain des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Après s'être stabilisé entre 80 et 85 dollars à la faveur du protocole d'accord signé en juin, le baril de Brent a franchi la barre de 90 dollars ce 20 juillet, une première depuis un mois. Les analystes anticipent désormais une hausse pouvant atteindre 95 à 105 dollars dans les prochaines semaines. Cette flambée est alimentée par les affrontements autour des détroits d'Hormuz, ainsi que par les craintes d'une aggravation du conflit.
L'invité.
Notre invité est Monseigneur Zachary Massimango Katanda, évêque de l'église anglicane diocèse de Kindu. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2026-2027, il revient sur les préparatifs engagés dans les établissements scolaires relevant de son diocèse. Il évoque notamment les colloques des enseignants organisés récemment à Kindu afin de renforcer les capacités du personnel éducatif et d'assurer une meilleure préparation de la prochaine année scolaire. Monseigneur Zachary Massimango Katanda, entretien avec Florence Kizalunga.
Zachary Katanda Massimango, bonjour.
Bonjour.
Pendant que les élèves sont en vacances, vous, église anglicane, dans les réseaux de vos écoles, vous réunissez les enseignants pour quel objectif?
Merci, c'est une meilleure question. Vous savez, en tant qu'évêque, je reçois les rapports des chefs d'établissement. Nous avons constaté qu'il y a un problème sérieux. D'abord, des collaborations entre église et école, et ensuite, la capacité aussi de nos enseignants et de nos élèves n'était pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Alors, nous avons jugé bon, avant la rentrée scolaire prochaine, d'inviter et les chefs d'établissement et aussi les enseignants pour qu'on puisse discuter ensemble, trouver un cadre où nous pouvons échanger pour améliorer les conditions d'études dans nos écoles.
L'on dirait que c'est une façon pour vous d'affûter vos armes pour la nouvelle année qui va bientôt commencer.
Justement, c'est ce que nous voulons, puisque vous savez, souvent, les contacts physiques, ça contribue beaucoup. Les gens me voient, je parle, on discute et on délibère ensemble, ça peut amener des fruits pour l'année prochaine.
Qu'est-ce qui a été considéré comme faiblesse pour l'année passée et quelles sont les propositions pour amélioration des conditions d'enseignement pour l'année prochaine?
Oui, le problème était surtout au niveau d'études des élèves que les parents nous confient dans nos écoles. Nous avons constaté que souvent nous ramassons beaucoup d'élèves à qui nous n'avons pas vraiment l'état de les suivre pour que nous puissions produire des élèves capables de défendre leurs titres. Alors, nous avons vu, par exemple, il y a dans l'expression, par exemple, française, il y a aussi dans la rédaction. Les inspecteurs se lamentent beaucoup dans la dissertation. Alors, ne vaut pas laisser sans pour autant faire quelque chose pour que nous puissions améliorer cet état de choses-là. C'est pourquoi nous sommes dit, cette année-ci, nous allons tout faire pour que nous puissions renforcer la capacité de nos enseignants.
Alors, vous venez de renforcer les capacités de vos enseignants. Qu'est-ce que les enseignants doivent faire pour l'année scolaire édition 2020? 2026-2027 au sein des écoles du réseau anglican?
C'est une bonne question aussi, puisque les enseignants sont là pour l'apprentissage. C'est-à-dire, ils doivent se préparer sérieusement pour que les élèves, que le parent et la société les confient, qu'ils soient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Donc, à ce moment-là, ils doivent préparer leurs cours, ils doivent aussi suivre les instructions étatiques et aussi collaborer avec l'Église pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour améliorer les conditions d'études de nos enfants.
Dans l'entame de ces assises, vous avez dit que dans les écoles anglicanes, ne doivent pas être considérées comme des poubelles où les élèves chassés de n'importe où doivent se réfugier. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Je voulais dire que souvent les gens ont des préférences des écoles. Souvent ils voient des bâtiments, aussi l'équipement, mais une attention n'est pas vraiment attirée sur la qualité d'enseignement et des enseignants. C'est ainsi que nous voulons renforcer plus la qualité d'enseignement pour que ce soit les normes pour juger à des écoles anglicanes, pas les bâtiments seulement. Nous voulons introduire le système des concours. Souvent les gens ont peur des concours puisque l'État souvent ne paye plus les frais à certaines écoles et les écoles profitent pendant les inscriptions pour avoir un peu d'argent. Mais nous allons introduire les concours pour qu'il y ait une sélection. Les concours peuvent nous permettre de fixer nous avons combien d'enfants qui sont capables d'étudier chez nous.
Est-ce un espoir pour les parents ou bien une garantie pouvant dire que l'année qui commence d'ici septembre, ça sera meilleur pour leurs enfants qui étudient au sein des écoles anglicanes?
Ne pas dire que c'est une garantie, mais c'est un espoir, puisque nous allons faire tout ce que nous avons comme possibilité afin que nous puissions, ensemble avec les enseignants et les chefs d'établissement, contribuer réellement à amener, à renforcer les capacités et des enseignants et aussi faire monter le niveau de nos enfants dans nos écoles.
Vous avez pensé aussi aux infrastructures et aux équipements de vos écoles pour la meilleure qualité de l'enseignement, comme vous dites?
Bien sûr que oui. L'année passée, on a construit 7 nouvelles écoles. On a équipé en bas et en manuel scolaire. Et d'ailleurs, on a introduit aussi les cours en ligne pour les enseignants des primaires, afin d'entrer dans le site internet de l'éducation nationale pour télécharger des modules proposés par les inspecteurs. Tout ça, nous l'avons fait et on va continuer à le faire.
Zachary Katanda Masimango, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame la journaliste.
Fin de cet entretien avec Monseigneur Zachary Masimango Katanda, évêque de l'église anglicane diocèse de Kindu. Il répondait aux questions de Florence Kizalunga. C'est ici que prend fin cette grande édition des 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination de Richard Junior Kamunga avec Jean-Claude Sial à la mise en onde. Retrouvez ces journaux en podcast sur notre site www.radiocapu.net et sur nos différentes plateformes numériques. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletins d'information de ce lundi.